Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais, drôle de période de transition aux États-Unis. Un président sortant qui refuse toujours sa défaite à coups de tweet où il dénonce la fraude électorale, qui semble même délaisser les affaires de l'État en allant jouer au golf, mais qui pour autant ne permet pas à l'équipe de Joe Biden de prendre ses marques et qui garde les pleins pouvoirs, notamment en matière de politique étrangère. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment, s'il faut s'en inquiéter, je reçois un observateur éclairé des rouages de l'administration américaine, ancien conseiller de Bill Clinton et de Barack Obama pour les dossiers internationaux, notamment au Proche-Orient, désormais à la tête de l'ONG International Crisis Group, spécialisée dans la résolution des conflits. Bonjour Robert Mallet.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct depuis Washington, où le jour se lève à peine. Je disais observateur éclairé, car vous avez vécu deux transitions, notamment celle entre Barack Obama et Donald Trump. Déjà, dites-nous, qu'est-ce qui se joue dans cette période qui, pour nous Français, paraît tellement longue, presque deux mois avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, quand en France, c'est à peine quelques jours?
Oui, d'abord, je veux dire que mes expériences passées ne m'aideront sans doute pas cette fois-ci parce que la transition est tout à fait inhabituelle. Mais comme vous dites, il y a deux particularités. D'abord, c'est la longueur du temps. Et apparemment, ça remonte à l'époque où on ne pouvait pas se déplacer en voiture, donc c'était par chevaux que la nouvelle administration devait venir. Mais l'autre explication ou l'autre fait notable, c'est que il y a énormément de nominations politiques. Il y a 4000 personnes qui doivent changer de poste. À partir du 21 janvier. Donc ça prend beaucoup de temps. Et il y a des gens nouveaux qui viennent, qui ne connaissent pas bien les dossiers ou qui ne connaissent certainement pas les dossiers secrets, les dossiers confidentiels. Donc pendant cette période de plus de deux mois, a priori, ce qui devrait se passer en principe, c'est une coordination entre l'équipe sortante et l'équipe qui rentre. Donc pour faire ce passage de bâton, entre présidents, mais aussi entre équipes. Et comme je l'ai dit, comparé à la France, par exemple, vous avez 4000 personnes qui viennent, qui doivent remplacer ceux qui ont été nommés par le président sortant. Donc c'est tout un appareil de transition qui doit se mettre en place. Je pense que c'est assez unique. Je ne connais pas d'autres pays où il y a une transition aussi longue et avec un changement de personnel aussi important.
Donc on comprend qu'il faut du temps, sauf que là tout est bloqué. On va prendre juste un exemple. Cette signature que ne veut pas apposer une femme, alors elle s'appelle Emily Murphy, c'est la patronne de l'administration des services généraux. Du coup, ça bloque les fonds pour que l'équipe Biden se mette en place.
Oui, dans un sens, ça c'est le moins des problèmes parce que l'équipe Biden a pu récolter d'autres fonds. Mais ce qui n'est pas en train de se passer, c'est justement cette coordination entre équipes. J'avais assisté, donc il y a 4 ans, j'étais membre de l'administration Obama. À cette période, nous rencontrions assez régulièrement les membres de l'équipe Trump pour parler des dossiers du Moyen-Orient, ce dont j'étais en charge. Mais ça se passait à travers toutes les administrations. On leur passait des papiers, on leur disait ce qui s'était passé, ce qui n'avait pas été public. Ils pouvaient être d'accord avec ce qu'on avait fait ou non, mais en tout cas, il y avait une mesure d'une certaine coordination. Or là, tout est bloqué puisque le président ne reconnaît pas son successeur.
Justement, dans une récente tribune au Monde, vous parliez de semaines longues, mouvementées, à haut risque. Qu'est-ce que vous redoutez alors qu'il y a, on l'a bien compris à travers ce que vous nous dites, des dossiers très sensibles, je pense au nucléaire iranien, à la présence des troupes américaines en Afghanistan, et que pour l'instant, Donald Trump, c'est lui qui garde le pouvoir.
Je ne suis pas devin, mais je dois dire que dans les deux semaines à peu près qui sont déroulées depuis l'article, presque tout ce que j'avais craint ou prévu s'est passé. C'est-à-dire que le président Trump a utilisé les pouvoirs qui sont légitimes. Il n'y a rien d'illégitime. Ce qui est illégitime, c'est sa non-reconnaissance de son successeur. Mais il a les pleins pouvoirs, mais il les a utilisés d'une manière sans précédent pour savonner la planche à son successeur. Donc, il a par exemple, il impose des sanctions hebdomadaires contre l'Iran pour compliquer la tâche de Joe Biden pour renouer les liens diplomatiques avec Téhéran. Il a pris une série de mesures vis-à-vis d'Israël, cette dernière semaine, pour reconnaître de facto la souveraineté israélienne sur les territoires occupés. Il a accéléré le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Et il nous reste encore 2 mois, donc je ne sais pas comment il complétera la liste. Mais nous voyons donc toute une série de mesures qui sont prises pour consolider l'héritage de Trump, pour compliquer la tâche de Joe Biden, et puis aussi pour commencer déjà la campagne électorale de 2024, une élection qui ne reconnaît pas, une campagne pour l'élection présidente qui commence déjà.
Une élection qui ne reconnaît pas, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, un nouveau coup de pression, là cette fois c'est sur les grands électeurs, puisqu'il tente une autre stratégie, avec l'idée qu'il pourrait choisir les grands électeurs qui voteraient pour lui et non pas pour Joe Biden. On pense à ces élus qu'il a reçus du Michigan.
Oui, là, pour le coup, je suis moins inquiet. J'aurais été inquiet si l'élection s'était tenue à un seul État, parce que là, la pression aurait été extraordinaire sur les électeurs de cet État pour essayer de faire en sorte qu'ils ne reconnaissent pas le vote populaire. Là, il lui faudrait au moins tourner la veste pour trois États. De plus en plus d'électeurs de ces États disent qu'ils doivent se conformer au vote populaire. Donc, c'était un scénario que beaucoup d'experts avaient craint, mais seulement dans l'éventualité d'une victoire très, très étriquée de Joe Biden. Or là, heureusement, je dois dire, pour la stabilité du pays, au moins, ce n'est pas le cas.
Robert Mallet, on voit aussi Donald Trump qui a limogé, entre guillemets, à tour de bras le chef du Pentagone, le responsable de la sécurité des élections. Ça témoigne de quoi? C'est la politique de la terre brûlée, comme vous l'écriviez aussi?
Écoutez, là, dans un sens, c'est un point d'interrogation. Est-ce que c'est simplement par esprit vindicatif, il veut se débarrasser de ceux qui ne lui ont pas obéi? Est-ce que c'est parce qu'il veut préparer des choses dans les 2 mois qui viennent et qu'il a besoin d'hommes et de femmes qui lui sont tout à fait loyaux? Est-ce que c'est parce qu'il veut se débarrasser de dossiers compromettants? Vraiment, là, on peut spéculer. Avec Trump, tout est possible. C'est peut-être l'explication la plus simple, c'est qu'il veut se venger et humilier des gens qui lui ont à peu près parfois tenu tête. Et dans le cas du chef du Pentagone, c'est pas comme s'il lui avait tenu tête de façon très très forte, mais apparemment, il voulait des hommes de main pour faire ce qu'il veut faire encore dans les 2 mois qui viennent.
Je le disais, Robert Mallet, vous avez connu 2 transitions, hein, celle entre Bill Clinton et George Bush, et puis celle entre Barack Obama et Donald Trump. On a vu qu'il y avait des discussions. Là, vous avez vraiment le sentiment que c'est du jamais vu. On met vraiment des bâtons dans les roues à la nouvelle administration qui va arriver en janvier.
Ce qui est vrai, c'est, et dans les 2 administrations auxquelles j'ai participé, il est vrai que les présidents prennent des décisions dans cette période un peu morte d'entre 2 administrations qui sont contraires à la volonté de l'administration qui doit suivre. Ça arrive. Mais j'ai jamais vu à ce point-là, et surtout avec ce veste sans précédent, de ne pas reconnaître qu'il a perdu les élections et qu'il doit donc préparer le terrain pour son successeur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai qu'en l'an 2000, dans la transition entre le président Clinton et Bush, à laquelle j'avais assisté également en tant qu'acteur, l'élection n'a pas été déterminée avant décembre. Mais ça, c'était à cause
du recomptage
d'une véritable question électorale qui a été résolue par la Cour suprême. Mais pendant ce temps-là, le président Clinton n'agissait pas comme si il devait barrer la route au président élu Bush. Or là, ce qui se passe, c'est un président qui prend des mesures à tour de bras. On est en train de voir vraiment une flopée de mesures, comme s'il pensait encore être président pendant 4 ans, alors que, évidemment, la raison principale, c'est qu'il sait qu'il est sur le départ.
Et comment vous l'expliquez ?
Je l'explique par un président qui ne peut pas accepter la défaite. Dans le cas du président Trump, c'est quelque chose qui ne lui peut pas lui rentrer dans l'esprit et qui, encore une fois, prépare, non pas, il n'est pas certain que lui-même sera candidat en 2024, mais il veut faire accepter la thèse, en tout cas parmi ceux qui lui ont voté pour lui, qu'il n'a jamais perdu, que Biden n'est pas légitimement élu, et donc que les 4 années qui vont passer, qui vont se dérouler devant nous, seront des années où il faudra se battre pour reprendre la présidence légitime qui lui a été à lui ou à ses amis, à ses collègues, arrachée de façon illégitime. Donc c'est toute une nouvelle narrative qui s'installe d'une présidence illégitime aux yeux de millions d'Américains et avec un président qui devrait être à la Maison-Blanche et qui pourra être au centre de l'actualité, au centre de l'attention, ce qui pour quelqu'un, pour Trump, est primordial. Il ne quittera pas la scène politique, ni aujourd'hui, ni demain. Il entend rester au centre des affaires.
Merci beaucoup Robert Mallet, je rappelle, ancien conseiller de Bill Clinton et de Barack Obama pour les dossiers internationaux, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 et d'avoir partagé avec nous votre expérience sur ce qui se passe et ce qui se joue en ce moment aux États-Unis. Au plaisir de vous accueillir de nouveau pour évoquer les gros dossiers qui attendent Joe Biden sur la scène internationale. Merci beaucoup.